Bonjour.
Bonjour.
Moi aussi, ce serait sur votre avis personnel. Aujourd'hui, on voit des soulèvements contre des régimes de peuples entiers. Et je voulais savoir si, à votre avis, vous qui l'avez vécu, il aurait été préférable d'avoir un soulèvement du peuple entier français plutôt qu'une organisation comme la Résistance qui prenait qu'une minorité de gens, ou pour vous, qu'est-ce qui aurait été le plus efficace dans le temps, le plus durable?
J'ai pas bien compris. En plus, le soulèvement.
Alors, j'essaye de reprendre la question. Tu me corriges si c'est ça. La question posée, c'est de savoir ce qui, à l'époque, donc au moment de l'occupation, aurait été le plus efficace, cette manière de résister, ou alors une indignation par rapport à ce que vous disiez à l'instant, complète du peuple français, qui aurait fait que les choses seraient peut-être allées plus vite. Voilà, c'est un peu l'objet de la question.
C'est ça.
Alors, il faut se replacer donc à l'époque. À l'époque, les moyens de résistance jusqu'à 1943 ont été extrêmement limités. Et ils ont été, d'une part, la constitution de réseaux de renseignement, de réseaux de guérilla, de réseaux de sabotage et de réseaux d'évasion organisés de Londres, recevant leurs instructions et leurs moyens de Londres, et dont aucun numériquement n'était très important. C'était des ensembles très efficaces, des organisations très efficaces, mais évidemment limitées. Ce qui s'est développé d'autre part, vous le savez, ce sont les mouvements de résistance spontanés, les moyens des mouvements de résistance se sont développés lentement parce que l'évolution de l'opinion française a été elle-même lente. Ce que nous savons qui est sûr, c'est qu'à la fin de 1941, la grande majorité, et ceci n'a pas été dit suffisamment, à la fin de 1941, la grande majorité de l'opinion française était anticollaborationniste. Et nous avons les comptes rendus sur l'opinion publique qui étaient adressés en 1942 au maréchal Pétain et à Laval, basés sur l'analyse de 360 000 lettres ouvertes par la censure chaque semaine, sur l'interception des dizaines de milliers de communications téléphoniques, et d'autre part sur la base des rapports des préfets et des renseignements généraux. Ces rapports, qui étaient tirés à 5 exemplaires, sont absolument fascinants et caractéristiques. L'opinion française, en juin 1942, était foncièrement anti-Laval, foncièrement anti-allemande, foncièrement anti-collaborationniste. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Les moyens d'action, en revanche, étaient limités par le défaut d'argent, limités par le manque d'armes. Et là, il faut tout de même rappeler que les Anglais n'ont accepté d'armer la résistance française qu'à partir de la décision prise par Churchill le 27 janvier 1944. C'est-à-dire que jusque-là, les armements envoyés en France étaient minimes, pour moitié composés d'explosifs, et que la plus grande partie avait été attribuée à des réseaux ou à des organisations soutenues par les Britanniques, par le Special Operations Executive britannique, chargé, responsable de la, des opérations subversives en Europe. Donc l'armement de la résistance a commencé en, le réarmement de la résistance a commencé en février 1944. Les Anglais puis les Américains ont déversé sur la France de l'armement pour à peu près 400 000 hommes. Une partie pas tellement importante a été prise par les Allemands, mais le nombre d'hommes armés en août 1944 n'a vraisemblablement pas dépassé 300 000 hommes. C'est-à-dire que les moyens étaient limités. Cela dit, se pose une autre question qui est celle de l'insurrection nationale. Le général de Gaulle, en 1942, a déclaré, en avril 1942, a déclaré « La libération nationale est inséparable de l'insurrection nationale ». Et la formule a été reprise par le Parti communiste qui, dans un bon nombre de ses journaux clandestins, la mettait en exergue. Mais cette insurrection nationale, qu'est-ce que ça voulait dire ? Dans notre esprit et dans l'esprit de beaucoup de résistants, ça supposait que, ça signifiait que, au jour du débarquement, il y aurait une explosion de toute la nation française contre les Allemands. Le texte du général de Gaulle, la formule, était suffisamment imprécise et ambiguë pour qu'on ne sache pas ce que ça voulait dire vraiment. Or, il y a eu deux interprétations. Une interprétation a été celle du Parti communiste. Le Parti communiste, conformément d'ailleurs à des instructions reçues de Moscou, est resté attaché à l'idée, comme un certain nombre de résistants de gauche d'ailleurs, que l'insurrection nationale devait éclater au jour du débarquement. Qu'au jour du débarquement, partout où ce serait possible, les Français devaient s'emparer des municipalités, prendre les gendarmeries, faire prisonniers les policiers, les préfets, les membres des administrations, faire la grève générale, c'est-à-dire un mouvement quasi révolutionnaire. Le général de Gaulle, en décembre 1943, a fait créer une cellule d'état-major qui s'appelait le Planning Group à Londres pour étudier la participation que la résistance pouvait et devait apporter à la libération. Son idée était que cette participation devait être très importante, que c'était important vis-à-vis des alliés, que c'était capital pour l'avenir de l'imaginaire français. Il était essentiel pour la France de l'avenir que les Français aient conscience d'avoir apporté cette contribution essentielle à leur libération. La cellule, toute petite cellule, mais composée d'hommes remarquables, du bloc planning, a fait 10 études entre janvier et avril 1944. De ces études, il résultait que, premièrement, le débarquement demanderait de 4 à 6 jours, que la défense de la tête de pont demanderait de 4 à 6 semaines, et que la libération de la France demanderait de 4 à 6 mois, et que par conséquent, il ne fallait pas que l'insurrection nationale ait lieu au jour J, sans quoi la résistance serait écrasée, annihilée par les Allemands. Et donc, il fallait que cette insurrection nationale soit échelonnée dans le temps et différente selon les régions, qu'elle ne se manifeste pleinement que lorsque les Alliés auraient percé en dehors de la ligne de pont et lancé leur offensive à travers la France. Dans la première phase, il ne devait y avoir d'après donc ce planning group, dans la première phase, il ne devait y avoir que des opérations limitées, c'est-à-dire des opérations de sabotage visant à paralyser les transports, empêcher les renforts allemands d'accéder à la tête de pont et couper les lignes de transmission télégraphique et téléphonique des Allemands. C'est-à-dire des opérations limitées avec guérilla uniquement dans les zones par où passeraient les renforts allemands. Ce que nous avons préparé, nous avons eu donc l'accord des Anglais et des Américains sur cette base. Sur cette base, il se trouve que j'étais le secrétaire d'une commission qui et j'ai rédigé les directives pour l'opinion publique en vue du débarquement sur ces bases. Les consignes données sur ces bases devaient être transmises par des fameux messages personnels de la BBC, ces messages codés qui sont bien connus, les violons longs, des violons de l'automne, etc. Donc, pour chaque région militaire française, il avait été prévu 3 consignes, et une correspondante à 3 plans, le plan vert, le plan violet, etc., c'est-à-dire sabotage des chemins de fer, sabotage des voies de communication, des transmissions téléphoniques. Et de même, des mots d'ordre pour chacun des réseaux contrôlés par les Britanniques. Ce qui avait été prévu, donc, était, pour la première phase, limité. Or, il s'est trouvé que 4 jours avant le débarquement, le général Eisenhower, qui était très incertain sur le succès du débarquement, il le donnait à 50-50, est estimé qu'il fallait négliger aucune chance et que, par conséquent, il fallait donner les consignes d'action généralisées à toutes les formations pour toute la France. Ce qui a déclenché, d'abord, il y a eu l'enthousiasme du débarquement. Les Français se sont figurés que, du moment que les Alliés avaient résisté, le pays allait être libéré en peu de jours. Il y a eu un afflux massif vers les maquis, mais d'autre part, toutes ces consignes d'action ayant été données, de nombreuses villes de France se sont déclarées libérées, et des villes de la région d'ailleurs, Romans-Petit ici, déclaré libéré 600 km², il y a installé juridiction, organisation quasi civile, et la ville de Mauriac s'est proclamée, Annonay se sont proclamées république, et le Vercors s'est proclamé république libre, et puis alors le Parti communiste qui et ses représentants. C'est le comité militaire de la résistance, qui était dominé par les communistes, ont donné l'ordre d'action immédiate qui a été suivi dans certaines régions. Ça a été le cas à Tulle en particulier. Dans le Limousin, le préfet du maquis communiste Guingouin a estimé qu'il valait mieux être prudent et ne pas occuper la ville de Limoges, heureusement pour Limoges et pour la région. Et de sorte que les délais du débarquement et les délais dans la tête de pont ayant été ceux qui avaient été prévus, les Allemands ont eu tout loisir d'écraser partout la résistance, et ça a été le cas, vous le savez, à Tulle, massacre dans l'Ain. Représailles à Nantua, Oyonnax, et puis Tulle, et puis finalement Radour, et puis le Vercors. C'est-à-dire que c'est seulement à partir du 15 août 1944, à partir du débarquement en Provence, Et à partir du moment où les Anglais ont intercepté l'ordre donné par Hitler d'évacuer le midi de la France, de ramener toutes les forces allemandes sur une ligne Ardennes-Belfort, c'est à partir de ce moment-là que, oui, il y a eu une espèce d'insurrection nationale militaire partout, partout, effectivement. Les maquis, les formations armées ont joué leur rôle selon leurs possibilités et leurs armements, en gros, n'est-ce pas, les Allemands avaient à peu près 250 000 hommes dans le sud de la France, dans la moitié sud de la France, et ils ont pu en évacuer 135 000, c'est-à-dire qu'une centaine de mille ont été ou tués ou faits prisonniers par la résistance ou par les forces alliées à l'intérieur du territoire. Donc ce n'est pas du tout négligeable, mais cette insurrection nationale, somme toute, ne pouvait pas raisonnablement, sauf risques énormes et représailles épouvantables, avoir lieu le jour du débarquement. Ce que moi je considère comme l'insurrection nationale extraordinairement réussie, c'est l'insurrection nationale politique, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, qui, partout, en l'espace de trois jours avant ou l'arrivée des Allemands, quelquefois, a instauré les municipalités, les pouvoirs nouveaux, les pouvoirs de la République. J'ai répondu à la question ?
Oui.